Aujourd'hui, j'ai un message que j'ai longtemps cherché. Pas trop, comme d'habitude, hein, à chaque fois on se demande, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? Et puis, puis simplement, parfois c'est compliqué dans nos têtes. Et alors, je me suis dit, Seigneur, mais je ne vois pas. Je ne voyais vraiment pas. Des fois, il y a la sécheresse, vous voyez. Et puis, j'ai eu un chant qui m'est venu dans la tête, là, avant que je m'endorme. Puis c'était un chant qui parlait de la victoire de Jésus, des victoires de Jésus. Puis un deuxième chant, bah, j'ai dit, ah tiens, quand même. Et j'étais sur une voie au départ, et puis après ça m'a fait bifurquer. J'ai dit, tiens, mais Seigneur, peut-être qu'il faudrait que je parle de tes victoires. Mais quand on parle de victoire, on parle aussi de combat, n'est-ce pas? Donc voilà, le thème, ce sont les combats de Jésus et ses victoires. Alors forcément, quand on parle de Jésus, on ne peut qu'envisager la victoire. Forcément, on est d'accord. Et pourquoi est-ce que le Seigneur, je pense, m'a donné ce sujet-là? C'est parce que c'est encourageant. On a tous besoin de victoire. Même lorsqu'on joue au ping-pong, quand on arrive à faire un bon smash, on est content, n'est-ce pas? Ça a l'air trivial ce que je viens de dire, mais alors imaginez sur les autres plans, sur le plan spirituel, lorsqu'on a des victoires. On a tous besoin de victoires, parce que les victoires nous construisent. Vous allez dire, mais les défaites aussi. Oui, c'est vrai. Parce que les défaites nous montrent quelque chose. Mais il y en a tellement, qu'on ne va quand même pas en faire l'apologie. On ne va pas faire louer nos défaites. Il s'agit de nous encourager. Il s'agit d'être un peu poussé et de réussir. Réussir quoi? Eh bien, notre vie avec le Seigneur. Réussir notre vie dans la nouvelle identité qu'on a reçue, celle de Jésus. Donc, il nous faut des victoires. Sinon, on peut s'attrister, c'est évident. Alors, je vais faire une approche très simple, en deux parties à chaque fois. Donc, je vais parler des combats que le Seigneur Jésus a engagés dans sa vie et les moyens qu'il a utilisés pour réussir. Donc, je répète, d'un côté, ben, quels sont les combats et quels sont les moyens qu'il a utilisés. L'idée ici, c'est de nous identifier à Jésus-Christ. On doit s'identifier. Il n'y a pas d'autre message, c'est de s'identifier, comprendre que les combats qui vont être ici présentés sont ceux que nous aurons, sont ceux que nous avons, ou que nous avons eus, et que nous aurons jusqu'à notre mort. Donc il s'agit de s'identifier, de se dire, c'est possible, c'est possible. La question, c'est de se dire, mais avec quels moyens? Quels sont les moyens pour vaincre? Alors souvent, alors ça je suis toujours dans l'introduction là, parce qu'il faut préciser le contexte. Souvent, vous savez, quand on parle de Jésus, on parle du Fils de Dieu qui a quitté sa gloire dans le ciel. On voit toujours Jésus de façon très, vous savez, la dimension spirituelle, je dirais. Jésus, c'est aussi celui qui est né d'une vierge. C'est celui qui est né miraculeusement. Jésus, c'est celui qui a fait des miracles. Voyez, on retient ça de Jésus. Jésus est celui qui est mort pour nous, qui nous a offert le salut, qui est ressuscité. On retient ça de Jésus. Beaucoup de gens connaissent là de Jésus. Et même beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils vivent avec Jésus depuis 20 ans, 30 ans, ils disent « Le Seigneur m'a sauvé ». C'est vrai. Le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur m'a sauvé. Il est venu nous accorder le salut. Mais ce n'est pas tout. Si on s'arrête là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas tout. Oui, le salut, oui. Mais n'idolâtrons pas le salut. Hein. N'aimons pas plus notre salut que Jésus lui-même. Et n'aimons pas plus notre salut que Dieu lui-même qui a envoyé Jésus. Attention, l'idée, ce n'est pas de dire j'ai le salut, c'est bon, c'est réglé pour moi. Moi, je n'idolâtre pas mon salut. Hein. D'ailleurs, mon salut, si ce n'est pas lié à Jésus, je n'en veux pas. À quoi ça sert d'être sauvé si il n'y a pas un écho, un lien avec Jésus? Je ne veux pas de salut. Moi, je ne veux pas de salut. Moi, je veux Jésus, je veux Dieu. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire « Je suis sauvé, je suis heureux, la vie continue, ça y est, c'est réglé. » Ce n'est pas comme ça. Ce que je vais vous présenter ici, c'est il m'a semblé que Jésus, il a mené des combats. Il n'est pas simplement venu pour nous sauver, il est venu aussi pour être un maître. Vous savez, souvent les Orientaux, les Africains, etc., quand on va dans, chez certains peuples, il y a cette tradition du maître, de la maîtresse, enfin, j'en sais rien, enfin, du guide. Et souvent, on voit Jésus comme sauveur, dans son statut de sauveur, mais on oublie que c'est un maître, on oublie que c'est un enseignant, on oublie que il s'agit d'un guide. Et quand on oublie ça, on le néglige pour notre propre vie. Donc, l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce que Jésus nous a enseigné en vivant parmi nous, en partageant notre vie, notre existence, sur terre? Il n'est pas venu que pour nous sauver. Que pour nous sauver. Je trouve ça trop réducteur. Quand on parle de la passion du Christ, souvent on parle de la passion du Christ à partir du moment où il s'est engagé dans son ministère pendant 3 ans. Et même certains réduisent cette passion du Christ au moment où il a commencé à dire qu'il allait partir, etc. Non, la passion du Christ a commencé dans le ciel. J'aimerais juste vous le dire. C'est dans le ciel que la passion du Christ commence. C'est dans le ciel et de toute éternité. Ça a commencé très, très, très loin, très en amont. Et sa vie n'est pas réduite au salut des hommes. Si nous avons cette approche, il s'agit d'une approche anthropomorphique, centrée sur nous-mêmes. Dieu m'a sauvé. Dieu est là pour me sauver. Moi, je refuse cette approche. Elle n'est pas complète, elle n'est pas juste, elle ne nous fait pas grandir, parce que, quelque part, on est sauvé, c'est comme si tout est arrêté, tout est arrivé. Non, il y a un chemin. Jésus, dans sa vie, a eu un parcours en particulier, puisqu'il était à la fois homme et à la fois l'incarnation de Dieu sur terre, le Fils de Dieu. Ça reste un mystère. Attention, ça reste un mystère tout ça. C'est des mots, mais c'est un mystère, moi, qui me dépasse. Il a eu un parcours et on s'aperçoit qu'il n'a pas eu beaucoup de repos. Il n'a pas eu beaucoup de repos, il n'a pas chômé. Il a été harcelé de préoccupations. Il a eu des préoccupations. Alors, je pense que ce message, je vais le faire en 2 fois, parce que sinon vous allez avoir la tête comme une pastèque à la fin. Et donc, je vais vous dire là les différents points qui me semblent avoir été les combats de Jésus-Christ. Donc, bien sûr, il a combattu la mort et la condamnation qui pesait sur nous. Ça, tout le monde le sait. Voilà ce qu'il a combattu. Ça, c'est le point d'orgue. Le point d'orgue apporté à son œuvre. Il a combattu la mort et la condamnation. Ok. Mais il a aussi combattu le péché d'orgueil. Vous savez, le premier péché de l'homme, d'ailleurs celui dans lequel se trouvent tous les autres, c'est le péché d'orgueil. Le fameux péché originel, je ne sais pas si c'est vraiment très juste de dire ça, mais le péché d'Adam et Ève, c'est le péché d'orgueil. Vous allez voir que Jésus est venu combattre ceci. Et il a combattu lui-même. Lui-même. Il était fils de l'homme, n'oubliez jamais ça. Fils de l'homme, avec un corps, 2 bras, 2 jambes, une tête, un corps complet, comme le nôtre. Donc, il est venu combattre le péché d'orgueil et nous montrer la voie, montrer qu'il était possible de vaincre dans ce domaine. Il est venu combattre la haine des autres. Une haine qui est acharnée, une haine qui est virulente sur terre, qui est vraiment présente, une haine. Il est venu combattre l'injustice, il est venu combattre les discriminations. Vous voyez ce mot qui est moderne, il existait déjà, ce concept, la réalité de ce concept, et que c'est déjà à son époque, a toujours existé, les discriminations. Il est venu combattre les divisions aussi, les clivages, les divisions. Jésus est venu combattre également le mensonge, l'obscurantisme. Vous savez, l'obscurantisme. Il peut y avoir de l'obscurantisme même dans l'Église. L'obscurantisme, c'est penser savoir alors qu'on ne sait pas, ou qu'on ne sait pas bien, ou qu'on ne sait rien. Et vouloir guider les autres. Il est venu combattre l'obscurantisme qui sévissait à son époque, dans les synagogues, parmi les érudits de son époque, les chefs religieux, vous voyez. La liste est longue, hein, vous savez, la liste est longue hein, de tout ce que Jésus a combattu. Et il s'est donné du mal. Moi, ce qui m'a frappé là, dans ce petit travail-là, c'est que je me suis dit, mais quand même, il s'est donné du mal, quoi. Il ne s'est pas juste levé en disant, je vais sauver les hommes, je vais aller à la croix, je vais mourir. Non, non. Il a travaillé sur tous les fronts, sur tous les fronts. Il ne s'est épargné aucun effort. Il a vraiment travaillé Jésus-Christ. C'est un exemple pour nous. C'est un exemple de travail. C'est un exemple de persévérance. C'est un exemple d'engagement. Mais dans différents domaines et dans différentes dimensions de la vie sociale, Jésus s'est engagé, il a mené des combats dans la vie sociale. Dans le monde spirituel, il a chassé les démons, mais aussi sur ce plan terrestre. Il a engagé plein de combats. C'était un homme qui était inséré dans la vie sociale. Il avait sa maman, ses frères, ses sœurs, ses amis. Il était un homme bien implanté. Il était charpentier, dit-on. Je n'ai pas lu dans la Bible. Son père l'était. Voilà, on ne sait pas. Donc voilà, j'ai été un peu long peut-être, mais je pense qu'il est important de comprendre ce dont on va parler. Alors après, j'espère que ça ne va pas trop vous barber. Mon approche est simple. D'un côté, je montre les combats, j'évoque le combat en question, les moyens que Jésus a employés pour combattre, et après, je lis des versets. Je n'ai pas d'autre prédication que ça, c'est très simple. Lecture de versets, en fait, il s'agit d'une étude biblique, tout simplement. Donc, on va démarrer, si tu veux, Viviane, par le premier combat. On va commencer par celui-là, c'est celui que tout le monde connaît et retient de Jésus, celui qui est cher pour nous, c'est le combat contre la mort qui nous avait été, la mort que nous avons, attention, que nous avons choisie. La mort que les hommes ont choisie, il s'agit d'un choix de mourir. Dans le jardin d'Éden, je rappelle, Dieu a dit aux hommes, à Adam, « Si tu manges de ce fruit, tu mourras. » Lorsque Adam et Ève ont mangé, ils ont choisi. Ils ont choisi. Attention, faut pas jouer avec ça. Ils ont choisi. Ils ont pris le risque, ils ont choisi. Donc, Jésus est venu combattre la mort, vaincre la mort qui pesait désormais sur nous à cause de nos choix hasardeux et ôter la condamnation. On était mort ou on mourait parce qu'on était condamné, mais pas condamné par Dieu. Arrêtons avec ça. Condamné par nous-mêmes. Condamné par nos propres fautes. Condamné par nos propres fautes. Donc ça, c'est important. Alors, par quel moyen est-ce que Jésus a combattu la mort? Alors, vous allez me le dire, il y a quelques mots-clés. Il m'en faudrait au moins trois. Par quel moyen est-ce que Jésus a combattu la mort et la condamnation qui pesait sur nous? Par quoi? Le pardon. Deuxième. La miséricorde ou la grâce, je dirais. La grâce. Faire grâce à quelqu'un. Tu es condamné à mort. Je te fais grâce. Je te fais grâce. Tu es gracié. La grâce présidentielle. Tout le monde connaît ça. La grâce présidentielle. Vous voyez, il y a des gens qui demandent ça. La grâce présidentielle. La grâce. Le pardon. Et le don de sa vie. Attention. Il n'y a pas de pardon, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de grâce sans sacrifice. Si quelqu'un est sauvé, si quelqu'un est gracié, sauf dans le cas de la grâce présidentielle, hein, excusez-moi, je parle d'une vraie grâce. Il n'y a pas de pardon, on ne peut pas réinitialiser un programme, on ne peut pas revenir en arrière, assainir une situation, la purifier, sans qu'il y ait un prix à payer spirituellement. Ce n'est pas possible. Donc cette grâce et ce pardon s'accompagnent d'un prix à payer. Donc, Jésus a donné sa vie. Donc, le don, c'est pardon, don. Il y a le don dans pardon. je donne, mais je donne pas que, oui, je te pardonne, je vais jusqu'à donner ma vie. Donc, Jésus a combattu la mort d'une façon très puissante. J'aime le redire, hein, pardonnez-moi, la grâce, le pardon, le don de sa vie. Et j'aimerais rajouter autre chose, le courage. Le courage. Parce que pour pardonner, il faut être courageux. Pour aller sur la croix, je suis désolé de le dire, il faut être sacrément courageux. Sacrément courageux. Donner sa vie pour son ami, tu le disais Bernard, c'est bien beau de le dire, mais il faut le faire, il faut le faire. Jésus l'a fait, il a vraiment fait. Et ça lui a coûté, croyez-moi. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, on va lire les versets. Ça n'a pas été facile. Il y a eu une lutte. Il a dit, je le fais, je le fais. Donner sa vie avec courage. Vous voyez donc, combattre la condamnation, ça demande aussi du courage derrière. Donc nous allons maintenant lire quatre versets. Alors, Jean, chapitre 1, versets 9 à 12. Pourquoi ce verset ? Cette lumière était la véritable lumière qui, on parle de Jésus, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alors pourquoi le choix de ce verset ? C'est parce que c'est pour montrer que il a fallu à Dieu, il a fallu au Fils de Dieu qui a quitté le ciel, il lui a fallu véritablement une détermination. Il est venu parmi les siens, il n'a pas été connu, d'accord ? Il n'a pas été reçu. Ce n'est pas évident d'aller chez quelqu'un, de chercher à le sauver, de chercher à le rencontrer, et finalement d'être rejeté. Il faut de la persévérance. Vous allez dire, mais c'est évident ça, David. Jésus, il savait ce qu'il avait à faire. Tout ça, ça lui passait par-dessus. Pas du tout. Jésus était homme. Il a fallu le faire. Il a fallu être rejeté, il a fallu parler, être poursuivi, il a fallu être blessé, il a fallu être tué, il a fallu être rejeté. Donc ce n'est pas un chemin automatique, qui va de soi. Il faut du courage, il faut une détermination. Dans le ciel, Jésus a quitté le ciel, déterminé. Qui enverrai-je ? Jésus a dit, je serai là. Je viens, je vais sauver les hommes. Qui enverrai-je ? Dieu dit, qui enverrai-je ? Mais après, une fois sur terre, il faut y aller. Hein. C'est de ça dont je veux vous parler. C'est facile de dire, Dieu a fait, etc. Mais dans la réalité, après, il y a ce qu'on appelle des contraintes. Il y a ce qu'on appelle des frottements. En physique, il y a des frottements. Voilà. On passe au verset, à Jean, chapitre 10. 17, 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce verset, je le trouve merveilleux. Pourquoi ? Parce que Jésus a décidé de combattre la condamnation qui pesait sur nous, de combattre la mort, en donnant sa vie de lui-même. Et il a reçu un ordre de son Père, mais il dit, je la donne de moi-même. En fait, les deux s'entendent. Le Père, le Fils, s'entendent pour le même objectif, et ils sont déterminés à le faire. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il faut de la générosité pour faire ça. Vous savez, quand on dit pardon, don, pardon, il faut comprendre cette générosité. Je la donne de moi-même. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est formidable, ça. On donne sa vie de soi-même pour lutter contre, pour aller combattre la condamnation. On donne sa vie. Luc, chapitre 22, verset 44. Alors là, c'est lorsque Jésus se trouvait juste avant qu'il ne soit capturé et qu'il ne soit enlevé et torturé, etc., hein, et crucifié. Là, il était dans le jardin de Gethsémané et il a passé un moment difficile. Étant en agonie, alors le mot est fort, l'agonie, c'est pas rien. Si on regarde dans le dictionnaire, l'agonie, c'est un moment où le corps vit un trouble sévère, de pression, c'est quasiment presque la mort. L'agonie, c'est l'antichambre de la mort. L'agonie, c'est, on peut imaginer Jésus. Il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le but, c'est pas d'impressionner qui que ce soit ici, en lisant ce verset. Le but, c'est pas d'impressionner les grumeaux de sang qui tombent, tout ça. Il faut juste comprendre ici qu'il y a un travail qui est fait par Jésus. Il y a un cheminement. Il y a une détermination pour donner, et que c'est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas un chemin aisé. C'est difficile. Il y a de l'opposition. Le corps de Jésus, le corps souffre. Son esprit souffre et combat. Il combat. Il combat parce qu'il y a l'instinct de survie. Et il est dans un corps. Et c'est la dimension spirituelle qui doit vaincre. Il faut avoir la victoire. Jésus a renoncé à sa vie. Il a combattu la mort en renonçant à la vie, en l'acceptant. Je ne sais pas si vous imaginez. Combattre la mort en renonçant à sa propre vie. Il a renoncé à sa vie pour combattre la mort. Il a accepté la mort, autrement dit, pour combattre la mort. Il a accepté la mort. Il a renoncé. Donc il y a une puissance dedans, puisque renoncer à sa vie, c'est finalement renoncer à tout, pour pouvoir dire je l'offre aux autres. On ne peut pas aller plus loin que ça. On ne peut pas aller plus loin. Donc c'était quand même pour dire que il y a une dimension spirituelle, mais il y a une dimension aussi physique, terrestre, que Jésus a dû affronter. Donc je recommence, je répète encore, la grâce a permis de combattre la condamnation, la mort, le pardon, le don de la vie et le courage. Moi, je veux admirer Jésus, parce que souvent on a des super-héros, vous savez, etc., dans les fictions qu'on connaît, mais Jésus, croyez-moi, vous pouvez en faire votre héros. Tout le monde peut en faire son héros. Il s'agit véritablement d'un héros, si on veut, Alors, ça, c'était le premier point. Venons-en au point qui est un peu plus long et pour lequel il y a un peu plus de versets. Je pensais au péché d'orgueil. Jésus a combattu le péché d'orgueil. Il nous a montré comment, finalement, combattre ce péché, qui est terrible. Il est sournois, ce péché. Il est sournois. Vous savez, derrière l'humilité peut se cacher l'orgueil. C'est terrible. L'orgueil, c'est terrible. Alors, comment est-ce que Jésus a-t-il combattu le péché d'orgueil? Je fais appel à vous. Il me faut au moins trois points, trois armes que Jésus a utilisées pour combattre le péché d'orgueil. Pensez à Adam et Ève, et vous allez comprendre ce qui leur a manqué. L'obéissance à la parole de Dieu. Je compléterai. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui a manqué à Adam et Ève. L'obéissance. Quoi d'autre? Alors, la connaissance et l'obéissance, oui. Mettons ça dans un tout, si tu me permets. Il manque encore quelque chose. Donc, l'obéissance, la connaissance de la parole de Dieu et son obéissance, oui. Oui, donc là, c'est la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, le fait d'être ancré dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui a manqué à Adam et Ève? Mais quand Dieu leur a dit une chose, si vous mangez du fruit de la connaissance bien et mal, vous mourrez. Et Satan les a fait douter. Il leur a manqué quoi? La foi. Croire et croire ce que Dieu nous dit. Il faut croire. Il ne s'agit pas simplement de connaître le texte. Il faut croire. Il leur a manqué ça à Adam et Ève. Excusez-moi, moi je suis bloqué là-dessus parce que c'est le début de tout. Et après, à partir de là, je comprends tout le reste. Vous savez, Jésus, il est dit que c'est le deuxième Adam. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Donc ça veut dire qu'il y a une référence. Il y a le premier et le deuxième. Enfin, ben, comparons les deux. Hein. La foi, pour combattre le péché d'orgueil, mes amis, j'allais dire, il nous faut la foi. Sinon, c'est pas possible. Il faut la foi, l'obéissance. Et tout ça n'est possible, je l'ai entendu, cela n'est pas possible sans l'amour de Dieu. Personne ne peut obéir à son père et à sa mère sans l'amour. Personne ne peut obéir à qui que ce soit sans qu'il y ait quelque chose qui le motive, qui le guide, qui l'incite. C'est l'amour. L'amour, c'est le sang qui coule. C'est la vie, c'est le moteur. Il faut l'amour. Un texte brut, aussi beau soit-il, si ce texte n'est pas vivifié par l'amour, il ne vous dit rien. Il faut l'amour, il nous faut l'amour. L'obéissance est possible avec l'amour. La foi est possible s'il y a l'amour derrière. Pourquoi croire en quelqu'un? Parce qu'on l'aime. Peut-être qu'Adam et Ève n'aimaient pas assez notre Dieu. Ils n'ont pas assez aimé. Ils n'ont pas assez aimé. Parce que quand on aime vraiment, on est attaché, on hésite quand même à faire certaines choses. On dit « Ah, je suis tenté, mais non. » Vous voyez ? On est ancré dans quelque chose qui est plus fort et qui nous guide. L'amour. Le péché d'orgueil a été combattu et nous sommes invités à combattre. De la même façon, c'est inutile d'aller chercher d'autres armes. Nous sommes invités, comme Jésus, à combattre le péché d'orgueil par la foi, l'obéissance à la parole et par l'amour. Matthieu 4, 1 à 11. Ça sera suffisant, je pense. Matthieu, chapitre 4, 1 à 11. Et là, je vais vous lire ce que le monsieur là-bas a dit. Il a cité la tentation de Jésus dans le désert. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Tout le monde connaît ce passage, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est à chaque fois, Jésus dit, « Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. » Alors, ce que vous allez faire à partir de lundi, est-ce que je vais faire? Parce que je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, David, tu as rarement dit, il est écrit. J'ai 50 ans cette année, j'ai jamais dit, face au combat de la vie que je rencontrais, il est écrit. J'ai envie de le faire maintenant. J'ai envie de dire, il est écrit, il est écrit. S'il s'agit d'un combat entre moi et moi-même, je vais me dire, David, il est écrit. S'il s'agit d'un combat entre moi et une institution, je vais dire, il est écrit. S'il s'agit d'un combat entre moi et une tierce personne, je dirais, il est écrit. Il est écrit. Il faut dire ça, adoptons ça désormais. Il est écrit. Tout simplement, il est écrit. Alors, on ne va pas lire la suite, parce que c'est long, mais sachez que Jésus, par trois fois, a été tenté. Jette-toi d'ici et les anges te porteront, etc. Adore-moi. Il est écrit. Il est écrit. Donc, comment Jésus a-t-il combattu? Par la foi, par l'obéissance à la parole. Attaché à la parole, il est écrit. Passons à Jean 5, 19. Il est écrit. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Incroyable, incroyable ce verset. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. J'aimerais vous dire que ce verset est vraiment formidable. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il faut le faire quand même. Jésus a dit, vous ne pourrez rien faire sans moi. Il a dit, vous ne pourrez rien faire sans moi. Et Jésus lui-même disait, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait... Rendez compte, hein, la restriction. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, il le fait aussi. C'est-à-dire que là, Jésus, il combat l'orgueil, il combat la tentation de l'orgueil par une soumission absolue à son Père. Le Fils ne fait que ce que le Père ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Je vois, je fais. Je vois, je fais. Quand même, hein, il n'a pas dit « je fais de moi-même ». Je fais ce que je vois. Incroyable, quelle humilité. Quelle humilité. Satan, là, vous pouvez plus s'approcher. Ce n'est pas possible. C'est un verset merveilleux. Il faut vraiment, vraiment le garder dans son cœur parce que c'est impressionnant pour moi. On continue toujours dans la même veine. Donc on est là au Jean 10, 38. Jean 10, 38. Donc là, on est dans l'obéissance. On combat le péché d'orgueil par l'obéissance à Dieu. Vous vous rendez compte? L'obéissance. Je vois, je fais. Je ne sors pas de là. Jean 10, 38. Mais si je l'ai fait... Alors là, Jésus parlait des miracles qu'il faisait. Et vous savez, les chefs religieux de l'époque disaient, c'est le démon qui fait ce que tu fais. C'est pas toi, c'est le diable. Jésus leur répond, mais si je l'ai fait, ces miracles, quand bien même vous ne me croiriez pas, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Moi, je trouve ce verset intéressant parce qu'il dit, mais si vous ne me croyez pas, pas de problème. Jésus n'est pas venu pour se glorifier lui-même. Ce n'est pas grave que vous ne me croyez pas. J'aimerais vous dire à vous, et si vous ne croyez pas Jésus, est-ce que j'ai le droit de dire que ce n'est pas grave? Croyez au moins ce que le Père fait. Je pourrais vous poser la même question. Si vous ne croyez pas ce que Jésus fait, je peux croire au moins ce que Dieu fait. Jésus, de toute façon, il est poussé aux extrémités. Jésus sait très bien qu'il n'obtiendra pas de la part des pharisiens qui l'écoutent. Il sait qu'il n'obtiendra pas. Donc, il leur dit, ok, d'accord, vous ne croirez pas en moi, je le sais, mais croyez au moins en ce que vous voyez. Ce que vous voyez est miraculeux. Donc, reconnaissez que si ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Jésus ne cherchait pas à tirer, ce que j'aimerais te dire, Jésus ne cherchait pas à attirer à lui la gloire, le regard. Il ne cherchait pas à attirer vers lui la reconnaissance des hommes. Tout ce qu'il faisait était dirigé pour la gloire de son Père. Et donc, ça lui paraissait être de la boue pour lui que d'être reconnu. Il ne cherchait pas ça. Jésus n'est pas venu pour chercher la gloire sur terre. Il est venu comme un serviteur. Donc, peu importe. J'aime bien la provocation de Jésus. Jésus est une personne libre qui dit « Ok, soyez libre vous aussi, mais reconnaissez qu'il là, il se passe quelque chose d'incroyable que vous ne pouvez imputer qu'à Dieu. Si vous ne me l'imputez pas, imputez-le à Dieu dans ce cas. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes en faute. » Donc Jésus n'attire pas les regards à lui. Encore une fois, c'est un exemple d'humilité. Jésus n'est pas venu chercher la gloire. Il est venu servir, il est venu désigner son Père comme étant le bénéficiaire de la gloire. Et en cela, il a combattu le péché d'orgueil. N'oubliez jamais, Adam et Ève ont commencé leur vie sur terre en trébuchant sur cela. Il n'était pas question que Jésus tombe là-dessus. Il n'était pas question. Et je pense que la préoccupation de Jésus, c'était sans arrêt honorer son Père. Il n'était pas question, Jésus est le deuxième Adam, il n'était pas question. Il fallait l'obéissance, l'honneur, la gloire à son Père, l'humilité parfaite pour vaincre ce péché d'orgueil. Luc 18, 19, on va aller un peu plus vite. Il y a beaucoup de choses, mais bon, on va terminer sur le péché d'orgueil. J'ai trouvé ce verset que je trouvais intéressant. On va passer vite. Jésus répondit à quelqu'un qui était venu le voir en disant « Bon maître, etc. etc. » Jésus lui répond. Jésus a toujours un... Vous savez, Jésus, j'aurais bien voulu le rencontrer directement, parce qu'il a toujours un petit côté provocateur. toujours un petit côté qui épingle là où, en fait, il y a de l'hypocrisie, là où il y a de la duplicité. Il sait très bien interpréter, discerner entre les lignes. Lorsqu'une personne lui dit « Bon maître », il dit « Attends, je te vois venir de loin, toi. Derrière « bon », qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce que tu veux me dire, là ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Pourtant, Jésus était bon. Personne ne va nier que Jésus est bon. C'est le Fils de Dieu. Il a quitté le ciel de gloire. Mais il a dit « Toi qui ne me crois pas, toi qui me méprises, toi qui ne crois pas que je sois venu de Dieu, pourquoi m'appelles-tu bon ?» Mais encore une fois, Jésus dit « Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus renvoie la gloire à son Père, voyez. Jean 17, 3. On va aller un peu plus vite et on va terminer, mais c'est important. Jean 17, 3. Et c'est comme ça qu'on combat le péché d'orgueil. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je t'ai glorifié sur terre. Jésus a glorifié son Père sur terre. Oui. Donc souvent, on croit que Jésus est juste venu nous donner le salut. Arrêtons avec ça. Nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas les seules préoccupations de Dieu. Il fallait que Jésus ait la préoccupation de glorifier son Père. Bien sûr, nous sauver. Mais dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs affaires. Et une affaire importante, c'était de glorifier Dieu. Puisque, quelque part, il y a eu un outrage. Quand Adam et Ève se sont révoltés, il y a eu un outrage. Il y a eu une révolte. Il s'agissait de rétablir l'honneur. Il fallait que le Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de l'homme, rétablissent l'honneur. C'était une préoccupation de Jésus sur terre. Il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'il le fasse. En plus de nous sauver, il fallait qu'il glorifie son Père. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas fait. Donc encore une fois, vous voyez, Jésus combat le péché d'orgueil en n'oubliant pas la priorité. C'est toujours d'être relié à son Père par l'obéissance, par l'humilité et par l'amour. Mais pourquoi glorifie-t-il son Père, Jésus? Parce qu'il aime son Père. Il aime son Père. Il aime son Père, c'est tout, c'est tout. C'est pas besoin de chercher à comprendre le mot amour. Tout le monde comprend ça. On termine presque. Donc, alors, Matthieu 6, 9, 13. Il reste trois versets et on va conclure. Matthieu 6, 9 à 13. Là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, toujours dans cet esprit de montrer le Père, d'honorer son Père, il ne nous dit pas « Priez-moi ». Il n'enseigne pas à ses apôtres « Priez-moi ». Il dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, etc. » Donc, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier Jésus. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, puisqu'il est notre médiateur. Je reprends tes paroles. Il est notre médiateur. Donc, bien entendu, quand vous avez un médiateur, ben, vous allez vers le médiateur qui porte le message au Père. C'est notre médiateur. C'est notre représentant. Donc, bien entendu, on va prier Jésus. Mais n'oubliez pas que Jésus est juif, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, de toute façon, il n'y en a pas trois, on est d'accord. Hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. De tout temps, dans l'Ancien Testament, Dieu c'est Yahvé, c'est je suis celui qui suis, il n'y en a qu'un. Donc il faut prier ce Dieu-là. Il faut prier ce Dieu-là. Jésus est venu nous le montrer. Jésus est le médiateur, celui qui l'incarne. Mais Jésus nous dit, voilà, vous allez prier votre Père. Et Jésus honore son Père. Jean 13, 5, l'avant-dernier verset. Toujours dans cette logique de simplicité, d'humilité. Jésus est venu comme un serviteur, comme je vous l'ai dit. Il n'est pas venu comme un roi de gloire, chercher les lauriers, pas du tout. Il est venu servir. Il est venu servir son Père et nous servir. Les deux. Servir son Père et nous servir. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc Jésus, là, juste au moment de prendre la Pâque avec les disciples, leur montrent que c'est ainsi qu'on doit se comporter les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut voir la suite du verset ou pas? On peut lire avec la Bible. Qui peut me lire, s'il vous plaît, la suite là, à partir du verset 14? Qui peut le lire à haute voix? Alors, donc voilà, pratiquez ces choses et vous serez heureux. Donc, je vous ai enseigné à faire ceci pour que, voilà, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, etc., afin que vous le fassiez comme je vous l'ai fait. Donc, le Seigneur nous invite aussi à suivre ce chemin, finalement, de service, de serviteur. C'est comme ça qu'il nous a enseigné. Pour conclure, nous avons vu que Jésus avait combattu la condamnation qui pesait sur nous et la mort. Par la grâce, le pardon, le don de sa vie et le courage. Nous avons vu aussi que Jésus a combattu le péché d'orgueil. Mais il n'a pas combattu pour nous. Il a combattu pour sa propre vie pendant qu'il était vivant. Il n'était pas question que Jésus dévie. Il n'était pas question qu'il dévie. Il est dit qu'il a été tenté en toute chose. Est-ce que vous pensez que Satan aurait été assez stupide pour aller tenter Jésus, sachant qu'il n'aurait aucune chance? Il a fait. S'il a fait, s'il s'est déplacé, s'il s'est dit « je vais tenter ma chance », peut-être que ça va marcher. Il y a un combat quand même. Tout n'était pas réglé d'avance. Il s'agissait pour Jésus d'honorer son Père, il s'agissait pour Jésus d'obéir, de montrer l'exemple. S'il n'y avait pas moyen pour Satan d'y arriver, il n'y aurait pas eu de tentation. Satan ne tente pas s'il n'y a aucun moyen. Il a dit, je vais voir. Je vais voir si ce Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et s'il incarne véritablement la nouvelle humanité. On va voir, on va bien voir. Donc Jésus a dû combattre dans sa chair, dans son existence, le péché d'orgueil, cette tentation de l'orgueil. Et il a combattu comment, vous l'avez compris? Par la foi, l'obéissance et l'amour de son Père. Et l'amour de son Père s'est vu comme ça dans tous les versets qu'on a pu lire. C'est toujours vers le Père. Jésus aime son Père. Jésus aime son Père. C'est ça. Ça transpire de lui, vous voyez. C'est touchant, c'est incroyable de voir cet amour. Il y a un amour entre le Père et le Fils qui date depuis l'éternité dans le ciel, mais qui s'est concrétisé sur terre. L'obéissance et l'humilité. Donc voilà, c'était un message donc, sur ces deux points-là. On pourra continuer sur les autres combats que Jésus a pu avoir. Et j'aimerais conclure en disant, mais Jésus, il a vaincu. Jésus a vaincu, il a vaincu. Il a été victorieux là-dessus. Et s'il a été victorieux, et que ça n'a pas été facile, puisqu'il a, qui dit combat dit qu'il y a un exercice, hein, il y a un effort, et bien c'est que nous pouvons également utiliser les mêmes moyens que Jésus pour y arriver. En tout cas, nous pouvons au moins y réfléchir, nous pouvons au moins nous dire, je vais essayer, je vais m'engager, et on va bien voir. Il faut y aller. Il s'agit d'y aller avec courage. Et c'est ce que je vous invite à faire. Alors à chaque fois, quand j'invite quelqu'un à faire quelque chose, je parle pour moi. Je me suis aperçu que chaque fois que j'apportais un message ici, je m'enseigne, je n'avais pas pensé à ça. Je m'enseigne moi-même, en fait. Ça m'ouvre, en fait, des dimensions de ma vie spirituelle auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc l'exercice de dire, j'apporte un message, en demandant au Seigneur de m'éclairer un peu, je m'aperçois que ça me donne de nouvelles pistes, de nouveaux enjeux à poursuivre moi-même, vous voyez. Donc voilà, ce n'est pas du tout du haut de l'estrade. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir enseigner d'ici, à place, ça serait même très plus commode, puisque quand j'enseigne à l'école, je suis sur le même plancher que mes élèves. Donc il n'y a pas d'estrade. Mais vous voyez, il n'y a pas d'injonction de ma part, pas du tout. C'est juste dire, oui, on a vraiment. Alors, ce qui est excitant là-dedans, c'est que c'est possible. Ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est que c'est possible. c'est qu'on peut gagner, vous savez, des petites victoires, et de petites victoires en grandes victoires, on peut gagner du terrain et de plus en plus être victorieux. Ne pensons pas que nous allons gagner la guerre d'un coup. Lançons-nous, ce que j'aimerais dire, c'est lançons-nous en conclusion dans le combat, comme Jésus l'a fait, et essayons, jour après jour, de conquérir, voyez, du terrain et d'être victorieux. C'est ça, je pense que c'est le message que je voulais apporter là, c'est l'esprit du message. Et je vais prier le Seigneur pour que tout cela puisse donc travailler nos cœurs et nous faire grandir, tout simplement. Seigneur, je te rends grâce pour ce message auquel je n'avais pas pensé, ce message concernant les combats, concernant les victoires, cet encouragement pour le quotidien. Je te rends grâce pour ça. Cela m'a donné beaucoup de joie. J'espère que cette joie sera communiquée dans les cœurs. Je te prie pour tous les chrétiens qui sont ici, tous les frères et sœurs qui sont ici, y compris les visiteurs, tous ceux qui sont parmi nous, qui sont les bienvenus. Je te prie pour tous les cœurs qui sont là, parce que nous avons besoin de victoire. Nous avons tous besoin de victoire pour grandir. Nous avons besoin de victoire pour mieux aimer. Nous avons besoin de victoire pour t'honorer. Nous avons besoin de victoire pour vivre la vraie vie. Seigneur, je te prie pour moi, pour tous ceux qui sont ici, formons un seul cœur, un seul esprit, pour que ta maison puisse grandir, pour que ta maison, ton peuple puisse grandir, puisse t'honorer, qu'on puisse toujours t'honorer, toujours au nom de Jésus-Christ, toujours au nom de Jésus-Christ, que nous puissions te rejoindre, Jésus-Christ, à la droite du Père. Nous y sommes déjà, mais dans les faits, nous voulons rendre ça concret. Si on siégeait avec toi, Seigneur, honorer ton nom et que nous en soyons joyeux. La joie qui découle de la victoire. Ces victoires qui sont des victoires, on va dire, spirituelles. Nous ne combattons pas avec les armes de la terre, mais avec des armes spirituelles. La grâce, le pardon, le don de sa vie, le courage, l'obéissance, la foi, l'amour. Que toutes ces armes, oui, entre guillemets, soient précieusement gardées près de nous pour que nous puissions les utiliser. Que nous ne les abandonnions pas, Seigneur. Nous te le faisons comme prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen.